Donc je vous disais, donc, on va faire la lecture d'un petit texte dans le livre de Tite. Alors Tite, le chapitre 2, et je vais faire la lecture à partir du verset 11. Je vais mettre les lunettes, on verra mieux. Je vais mieux voir. Alors, Tite, donc le chapitre 2 à partir du verset 11. Alors l'auteur nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Normalement, c'était trois versets qui nous intéressent, mais je vais faire la lecture jusqu'à la fin. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de te faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes encore en ta présence en ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous honores de ta présence ici. Et Seigneur, nous sommes encore là pour te demander de nous encourager, de nous fortifier. Nous savons que nous sommes parvenus en des temps difficiles et nous avons tellement besoin de toi. Alors puisses-tu encore, Seigneur, nous faire du bien par ta parole ce matin. Seigneur, je veux simplement être un instrument entre tes mains, je veux être malléable entre tes mains, que tu puisses venir encore ce matin par ton Saint-Esprit et m'utiliser pour nous faire du bien. Alors, utilise-moi encore ce matin et bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à mon intervention ce matin, ce serait « La grâce de Dieu ». Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs condamnés à mort étaient alignés le long d'un mur. Parmi eux, un jeune homme de 17 ans. Un sexagénaire pris de compassion pour le jeune soldat proposa de prendre sa place. Après quelques instants d'hésitation, l'officier chargé de l'exécution consentit à l'échange. Le jeune homme fut libéré. Quelques instants plus tard, les mitraillettes meurtrières fauchaient les malheureux condamnés. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a été fusillé à notre place. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu peut gracier le pécheur parce qu'un autre a payé pour lui. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, la grâce de Dieu, c'est la pure bonté de notre Seigneur qui aime le pécheur et qui veut non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Dans notre texte de ce matin, Paul, en peu de mots, nous dévoile la chronologie de la révélation de la grâce de Dieu. Et comment Paul s'y prend-il? Il le fait en employant dans les trois premiers versets, le passé, le présent et l'avenir comme ligne directrice de notre vie. Alors le premier point que je voudrais voir avec vous, il nous montre ce qui s'est passé dans le passé. Alors je vais relire le verset donc 11 qui nous dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu. Donc, il nous montre ce qui s'est fait dans le passé. Qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? La grâce de Dieu est apparue. Dans l'ancienne alliance, Dieu était inaccessible. C'est-à-dire que quand Dieu se donnait à connaître, c'était toujours par une théophanie. On l'appelle une théophanie, une manifestation visible ou audible de Dieu. La Bible nous dit dans Exode que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 430 ans. Et à un certain moment, Dieu va envoyer un libérateur. Ce libérateur s'appelait Moïse. Moïse, par l'intermédiaire du Seigneur, va délivrer son peuple. Et dans Exode 13, il nous est parlé de la colonne de nuit. Et je voudrais lire ce verset avec vous. Exode 13, verset 21 à 22, c'est pas la peine de prendre. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ensuite, la présence de Dieu va se manifester à travers le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle, c'est une sorte de temple portatif, provisoire, dans lequel le Seigneur rencontrait son peuple. Ensuite, lorsque le peuple va entrer en Canaan, la terre promise, Salomon va construire le temple. Et quand vous lisez un peu les textes, on voit qu'il y a eu une fête, une grande fête. Et il y a le moment de la dédicace du temple. Et la Bible nous dit que le temple était tellement rempli de la présence de Dieu que les sacrificateurs même ne pouvaient même pas rester. Tellement la gloire de Dieu avait rempli le temple. C'était merveilleux. Et puis, malheureusement, le temps a passé. Les siècles ont passé. Et Ézéchiel nous dit que la gloire a laissé le temple. La gloire de Dieu a laissé le temple. Et Ézéchiel nous décrit ça très bien. Il nous dit que la gloire de Dieu était manifestée par cette nuée, toujours cette nuée, qui avait tous les chérubins. Et puis à un moment, Ézéchiel nous dit que la gloire de Dieu va laisser ces fameux chérubins, ce qui était dans le temple. Cette gloire va partir vers le seuil du temple. Après, Ézéchiel nous dit que cette gloire va sortir sur le seuil et il va aller dans la ville. Après, la gloire va laisser la ville et elle va partir vers la montagne, la montagne d'Orient, le mont des Oliviers. Et puis, malheureusement, cette gloire va disparaître. On ne va plus jamais rien apparaître dans le temple. Là, c'était très triste. Mais la Bible nous dit qu'après un laps de temps très important, la gloire de Dieu a réapparu. Cette gloire lui a apparu dans le Fils de Dieu. Et Jean 1er, le verset 14, nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé cette gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En Jésus, la gloire est de nouveau devenue visible et accessible. Je vais aller encore plus loin dans mon texte. Je reprends donc Tite 2, le chapitre 11. Il nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut. Donc, l'auteur nous dit que ce qui s'est passé dans le passé, la grâce est apparue, mais la grâce est apparue apportant le salut. Ça sous-entend que lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec quelque chose pour nous. Et qu'est-ce qu'il avait pour nous? Il avait le salut. Jésus n'est pas venu les mains vides. En Philippiens 2, le verset 5 à 8, nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, en existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu, mais il n'est pas venu avec les mains vides. Il est venu nous apportant le salut. Lorsque je lis ce texte, ayant pour les sentiments qui étant Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ était Dieu. Lorsque Jésus-Christ est incarné, il n'est pas, il n'a pas perdu en quelque sorte son autorité. Il était toujours Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. Mais ce qui me tient par contre dans ce texte, c'est que lorsqu'il a fallu sauver les hommes, ça n'a pas été un problème pour le Seigneur Jésus. Le texte nous dit que il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Quand il a fallu venir nous sauver, Jésus est venu. Il aurait pu dire que l'homme avait été averti, parce qu'Adam et Ève avaient été avertis dans le jardin. Vous pouvez toucher de tous les arbres, mais le jour où vous touchez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et cette mort, bien sûr, c'était la mort physique, mais c'était aussi la mort spirituelle. Mais là, le Seigneur, quand il a fallu payer le prix, il est venu. Le Seigneur a voilé son autorité, il a voilé son éclat. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Le Seigneur donc a pris, parce que moi je pense que c'était déjà une humiliation de devenir un homme. C'était déjà une humiliation de voiler son éclat. Mais le texte nous dit que s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Donc je pense que c'était déjà une humiliation de devenir un homme. C'était déjà une humiliation de s'humilier, de devenir comme nous. Mais le Seigneur va encore plus loin. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est vrai que lorsque nous lisons les textes, nous lisons l'Évangile, les évangiles, et on voit tout ce que le Seigneur Jésus a enduré pour nous. Et là, je crois que dicté par le diable, les hommes lui ont fait un peu cadeau. Le Seigneur était frappé, il a reçu des gifles, on lui a craché dessus, on lui a déchiré ses vêtements. Souvent, quand on lit les Écritures, peut-être on passe vite sur certaines choses. Je regarde par exemple dans Isaïe 53, et quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est que le Seigneur ne ressemble même plus à un homme. Son visage, tant son visage était défait. Quand on lit ça, on voit comment le Seigneur était maltraité pour nous. Il ne ressemblait plus à un homme. Tant son visage était défait. La Bible nous dit qu'ils ont frappé le Seigneur, ils l'ont flagellé. La flagellation du temps des Romains, les exégètes, donc ceux qui utilisent la Bible, disent que c'était des fouets. Ces fouets, c'était des lanières de cuir. Et à l'extrémité de ces lanières de cuir, il y avait des morceaux d'os ou des morceaux de métal. Et ils disent que lorsque les Romains fouettaient les gens avec ça, ça arrachait la peau, ça arrachait la chair, et parfois ça arrivait même aux os. Et souvent, les gens mouraient avec d'atroces souffrances. Et le Seigneur a vécu cela. Et certainement poussé par l'ennemi, ils n'ont pas arrêté. Hein. Ils ont donné des coups, peut-être avec mépris, avec... Vous imaginez c'est être fouetté comme ça alors que vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes Dieu lui-même. Et le Seigneur savait ce qu'il allait venir. Il dit non. Ah non, moi je n'accepte pas ça. Il a accepté. Et ce qui est plus terrible, c'est que la Bible nous dit à un certain moment, Jésus va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père et le Fils étaient toujours deux. Il y avait une telle communion entre eux. Et là, pour nous, cette communion était brisée. quel cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père et le Fils là s'étaient séparés. La justice divine tombait sur Jésus. Jésus payait pour l'humanité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il est intéressant de voir dans les évangiles que lorsque Jésus mourait sur la croix, l'univers même s'est humilié. Le soleil a voilé son éclat, la terre même a tremblé. Les rochers se fendirent. Des choses extraordinaires se sont produites. Parce que la nature même a reconnu que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, était là. Mais grâce à notre Dieu, un autre cri a retenti. Tout est accompli. La justice divine avait sévi sur Jésus pour nous donner la vie. Et c'est, je crois que c'est ce que nous devons retenir. Tout ça, c'était pour nous donner la vie. Tout ça nous montre ce qu'a coûté les souffrances de Jésus. Notre Seigneur coûte très cher à notre Seigneur. Donc la grâce de Dieu est apparue, nous apportant le salut. Je continue mon texte. Donc, nous sommes toujours dans titre 2, le chapitre 11. Car la grâce de Dieu, nous l'avons vu, source de salut, nous l'avons vu, pour tous les hommes. Donc la grâce de Dieu, apportant le salut à tous les hommes. La grâce de Dieu est pour tous les hommes, sans exception. Simplement pour autant qu'elle soit acceptée à titre individuel. La grâce de Dieu est pour tous les peuples, pour toutes les races. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, rouge, jaune, qu'est-ce qu'il y a encore comme race, je ne sais pas. Il y a d'autres couleurs? Non, il n'y a que ça. Ben, elle est pour tout le monde. Elle est pour les personnes de grande moralité. Elle est pour les prostituées, elle est pour les dealers même, qui vont la mort. Mais s'ils reconnaissent leur état, ils demandent pardon, la grâce aussi est pour eux. C'est merveilleux, la grâce est pour tout le monde. Dieu ne fait pas de différence. Et souvent, je me dis que si le Seigneur nous avait donné ce pouvoir de donner la grâce aux uns aux autres, ça aurait été terrible. Hein. Trois. J'aime bien ta tête, tu auras la grâce. Toi, par contre, j'aime pas trop ta tête. Et puis, j'ai pas d'affinité avec toi, non. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. La grâce, c'est pour tous. À partir du moment où nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, nous reconnaissons qu'il est mort sur la croix, la grâce, c'est pour nous. Dieu ne fait exception de personne. Et tout ce qui est, vous tous qui êtes ici en ce matin, Dieu vous aime. Et vous avez tous du prix aux yeux de Dieu, quel que vous soyez. Et Dieu est mort sur la, Jésus est mort sur la croix pour chacun de vous. Sur la croix pour chacun de vous. Donc la grâce, elle est pour tous. Le médicament qui apporte la guérison doit être puissant. Ça ne sert à rien d'avoir un médicament et de le garder dans la poche. Le médicament doit être puissant. Donc Dieu a rendu son salut accessible à tous et il suffit simplement de l'accepter. Celui qui l'accepte a la vie éternelle. Nous allons poursuivre parce que je passe vite. Je poursuis avec mon petit texte. Le verset 12 nous dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au boitisme mondaine. » et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. À vivre dans le siècle présent. Donc, c'est pour aujourd'hui. Donc, la grâce nous enseigne ce que nous devons faire aujourd'hui. Et d'après ce que nous avons lu, donc c'est à parfaire notre sanctification. Dans Jean 15, le verset 4, nous lisons ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. J'aime bien ce texte. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une vérité tellement importante. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne que nous devons faire ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, j'ai dit, il ne faut pas faire notre sanctification. Ce texte nous dit que nous sommes des sarments dans des branches, et nous devons être attachés au cep. Nous devons être attachés au tronc. En tant que chrétiens, nous sommes devenus, ou bien nous sommes, vous êtes dans le Seigneur Jésus. Nous sommes dans le Seigneur Jésus et Jésus-Christ est en nous. C'est Éphésiens 1, je crois. Éphésiens 1, le verset 13 nous dit que nous tous qui avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'à partir du moment qu'on accepte Jésus, Dieu vient dans notre cœur. Je vais faire comme le pasteur Nicolas. C'est pas merveilleux, ça. Donc, Dieu, à partir du moment qu'on accepte la grâce, Jésus-Christ, son Saint-Esprit vient en nous. Et je vais faire un rapprochement avec ce verset-là. En tant que chrétien, donc vous êtes dans le Seigneur Jésus et lui est en vous. Et ce qui est important, c'est cette sève qui est dans le tronc et qui va passer dans les branches. Ça nous montre que nous devons avoir une communion étroite avec notre Seigneur. Nous sommes dans un temps tellement difficile où l'ennemi fait rage, mais nous avons besoin d'avoir cette communion intime avec Dieu. Nous avons besoin, je m'emploie des mots à la mode, nous avons besoin de rester connectés. C'est à la mode, hein? C'est voilà, on dit ça, connecté. Donc nous avons besoin de rester connectés au Seigneur, de coacher au Seigneur, afin que surtout cette vie de l'esprit puisse entrer en nous. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur puisse vraiment faire passer cet esprit, puisse prendre le contrôle de nos vies et que nous puissions être agréables à ce grand Dieu. Nous devons demeurer une communion étroite avec le Seigneur. Il suffit au sarment de rester attaché au sein pour qu'il puisse recevoir les éléments qui lui sont nécessaires. Cette sève puisse passer, donc qu'il passe dans le tronc, puisse aller dans les branches. Et c'est ça dont nous avons besoin. Et je crois que quand nous aurons cette communion intime avec notre Dieu, quand Jésus sera le centre de notre vie, quand Christ sera vraiment le leitmotiv de notre vie, notre raison de vivre, le Seigneur va nous montrer ce que nous aurons à faire. Il va nous montrer que nous devons adopter un mode de vie déterminé par Dieu. Il va nous montrer aussi que nous devons lire sa parole pour savoir ce qu'il attend de nous. Et cet esprit va nous montrer aussi que nous devons prier parce que les temps sont mauvais. Donc, je crois que c'est important, la grâce de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne devons pas faire cette sanctification. Avoir cette communion intime avec notre Dieu. Je crois que c'est très important. Parce que l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour pouvoir nous empêcher d'avoir cette communion. Tout est fait pour nous empêcher d'avoir cette communion. Mais je crois que c'est important que nous puissions être en contact chaque jour avec ce Dieu-là. Passer du temps avec lui. Et nous verrons que son Saint-Esprit va nous transformer au fur et à mesure. Je continue encore mon texte. Je vais mettre les lunettes, ça ira mieux. Alors, dans Tite, le chapitre 2, le verset 11 et 12, nous l'avons déjà lu. Je vais lire le dernier verset qui nous intéresse. Et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous pousse à attendre Jésus-Christ. Un jour, Jésus reviendra. Et vous savez quelque chose? Chaque jour qui passe, nous rapproche du retour du Seigneur. Chaque jour qui passe, nous rapproche du retour du Seigneur. et nous devons avoir l'esprit que aujourd'hui, nous sommes plus proches du retour du Seigneur que hier. C'est évident. Et ça, ça peut nous montrer que chaque jour qui passe nous rapproche de ce grand jour. Et je veux lire un texte avec vous. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54, nous lisons ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Le Seigneur reviendra et ce qui m'interpelle en un instant, nous dit le texte, en un coup d'œil. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Je crois qu'il faut faire une différence entre, parce que des fois il y a des textes qui semblent se contredire, mais la parole de Dieu ne se contredit jamais. L'enlèvement de l'Église, comme ce texte nous dit, c'est, nous savons qu'à un moment, l'Église sera enlevée. Mais il y a aussi que le Seigneur reviendra en gloire. Et là, certains textes nous disent que tout œil le verra. Mais lorsque Jésus viendra chercher l'Église sera enlevée. Mais là, ça c'est quelque chose qui se fera en un clin d'œil. Ça veut dire qu'un jour arrivera où tous ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, ils vont disparaître. Ils seront enlevés, ça sera l'enlèvement. Ils partiront avec le Seigneur. Et après, il y aura la venue du Seigneur en gloire pour le peuple d'Israël. Lorsque les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers, il y aura cette grande bataille pour le peuple de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, cela se fera en un clin d'œil. Et ce sera le plus bel événement, le plus grand événement de l'histoire du monde. En un clin d'œil, c'est que les choses se feront finalement, de façon inattendue. Il n'y aura pas de communiqué de presse disant que demain le Seigneur Jésus revient. La radio ne va pas annoncer des choses, la télévision ne va pas annoncer des choses, BFM TV ne nous dira rien du tout, hein, parce qu'eux-mêmes sont en fuite. En un instant, en un clin d'œil. Et ça nous montre une chose, d'où la nécessité d'être prêt. D'où la nécessité d'être prêt. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Donc ça sous-entend que, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Donc ceux qui sont morts en Christ seront transformés et nous aussi nous serons changés. La vie de notre corps là sera transformé en corps de gloire. Ça sera merveilleux ce jour-là. Jésus disait qu'il était ici encore. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc c'est pour ça. Dieu veut que là où il est, nous y soyons aussi. Donc tout ça nous montre que la parole de Dieu, c'est. Elle s'accomplira à la lettre. Elle s'accomplira à la lettre. Donc un jour, en un clin d'œil, le Seigneur va revenir.
Dimanche dernier, le pasteur Nicolas a parlé sur le peuple d'Israël et le refus de l'autorité de Dieu. Et il a touché le Matthieu 22, 1 à 14, les noces de ces fameuses noces où des gens avaient été invités et ne sont pas venus. Et quelque chose m'a interpellé. Les disciples étaient à un certain moment avec le Seigneur. Et il fait des remarques au Seigneur Jésus. Tu as vu ce beau temple et puis c'est quel bel édifice en parlant du temple. Il disait que, en quelque sorte, l'air de dire c'est merveilleux d'avoir un beau temple comme ça. Et le Seigneur leur avait sorti cette phrase. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. En quelque sorte, les Juifs regardaient, ce peuple-là regardait le temple, et c'était une merveille parce qu'il y a eu des ouvrages là-dessus. On a parlé sur le temple. Le temple d'Israël, c'était quelque chose de très beau. En fait, sur la façade du temple, elle était couverte d'or. Et on disait que lorsque le soleil reflétait là-dessus, c'était quelque chose de merveilleux à voir. Et sans doute, c'était peut-être un coucher de soleil, mais le soleil tapait là-dessus, et les disciples faisaient remarquer ça au Seigneur. Ah, mais quelle belle ici! Mais notre temple, il est beau! Il est merveilleux! Et le Seigneur lui a dit, ne restera pas ici, pierre sur pierre, il ne sera pas renversé. Et l'histoire a montré que 70 ans après, un fameux général roumain, Méticus, est venu avec son armée, ils ont mis du feu au temple, le temple a été brûlé, et pour pouvoir justement récupérer tout l'or qui était sur la façade du temple, parce que tout ça bien entendu avait fondu avec du feu, ils ont enlevé bloc par bloc ces grosses pierres pour récupérer l'or. Et la parole du Seigneur s'est vérifiée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc la parole du Seigneur s'accomplit toujours à la lettre. Peut-être que quelqu'un pourrait me dire, oui, mais ça c'est vieux, ça c'est long, ça fait très longtemps ça. Je vais voir avec vous un autre texte. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ça c'est pour nous montrer que quand Dieu nous parle, sa parole s'accomplit toujours à la lettre. Et nous pouvons être conscients que ce qu'il a dit s'accomplira. Ézéchiel 37, verset 21 nous dit ceci. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? La Bible n'a jamais cessé de dire qu'Israël reviendrait dans son pays. Israël demeure un exemple pour nous. Et Israël est quelque sorte une lampe qui brille pour nous montrer que la parole de Dieu, c'est la vérité. Plusieurs textes nous disent qu'Israël devait revenir. Lorsque le temple a été brûlé en 70, il y a une grande persécution. Et en 65 après Jésus-Christ, je crois, Israël, la nation Israël a disparu de la face du monde. Israël a perdu son identité en tant que peuple, en tant que nation. Et ce peuple n'existait plus. Ils ont disparu de la surface de la terre, en 135 après Jésus-Christ. Et en 1948, l'État d'Israël a refait surface. Cet État est revenu au devant de la scène publique. L'État d'Israël a repris, est revenu en quelque sorte à la vie. Et vous avez vu ce que le texte disait? Ézéchiel 37, verset 21. Et tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai dans leur pays, de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Ça sous-entend que quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplira toujours. Le Seigneur avait dit que ce peuple reviendrait chez lui et Israël est revenu. Donc, de la même façon que le Seigneur dit qu'il reviendra, c'est une question de temps. il reviendra sûrement. Donc tout ça nous montre comment nous devons être vigilants, rester attachés au Seigneur. Si peut-être les choses ne sont pas faciles, il y a tellement d'autres souffrances dans notre monde. Les choses ne vont pas s'améliorer. Dans la Bible, nous dit c'est par beaucoup d'épreuves et de tribulations qui nous font entrer. Mais le Seigneur nous a dit aussi qu'il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc tout ça pour nous montrer que nous devons attendre le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus reviendra. Même si certains nous disent, mais depuis le temps, il n'est pas encore revenu, mais continue à persévérer contre le Seigneur, car Jésus-Christ reviendra. Il reviendra sûrement. Donc, je dirai en conclusion, parce que l'heure est arrivée, nous voulons encore glorifier ce grand Dieu et lui dire encore merci pour cette grâce immense qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Et ma prière pour tout un chacun ce matin, c'est que, et pour ceux qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu, c'est qu'ils puissent en Christ de venir avant qu'il ne soit trop tard. Mais que toujours nous puissions dire au Seigneur merci. Merci pour ce salut si merveilleux qu'il nous a donné. Ce salut lui a beaucoup coûté. Mais c'est là que nous voyons l'amour de Dieu qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Alors nous disons, Seigneur, merci pour cette grâce immense qu'il nous a faite, de nous accepter de son ciel, afin qu'un jour que nous puissions être avec lui, alors que le grand Dieu, son grand nom soit élevé et exalté en tout temps.